France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
Un pianiste devrait-il lire ça ? Mes séances à musique m'ont permis de répondre à un certain nombre de questions, de celles que se posent d'ailleurs tous les musiciens. Mais les autres compositeurs, qui sont-ils pour moi ? Pourquoi certaines œuvres me paraissent-elles plus accessibles que d'autres ? Et pourquoi ai-je besoin de me confronter à ce qui m'est opposé ? Sans doute, j'espère trouver derrière un ciel nuageux, souvent nuageux, une lumière qui ne s'éteint pas. La pandémie a fait son chemin. Ces séquences pour France Musique s'adressent peut-être d'abord à moi-même. Un parcours avec Scriabine, Brahms, Chopin, ce qui me résiste parfois et ce que je croyais connaître. Albéniz, Faya, Debussy, jusqu'au tandem Berlioz-Liszt. À mon piano, évoquer leur vie, leur esthétique, les événements historiques qui me parlent, jouer, me tromper, recommencer sans cesse. Voici, sans fausse exhibition, le travail d'un pianiste qui ne devrait peut-être pas dire ça. Eh oui, un musicien ne devrait pas dire ça. Faire état de ses doutes, de quelques certitudes aussi. C'est un envers du décor que l'on hésite à exprimer. Mais pour un, entre guillemets, pianiste français de la musique du XXe siècle, Brahms offre quelques résistances, au pluriel. Peut-être qu'en les formulant, je m'aiderai moi-même et le ciel m'aidera. Faut-il rappeler que Brahms a eu du mal à s'imposer en France ? Je peux vous lire quelques petits papiers édifiants, notamment une critique extrêmement vive, enfin méchante, d'Édouard Lalot. Je le cite. « Le succès de Brahms est un produit du chauvinisme allemand. » Esprit inférieur dont la pioche a sondé tous les coins du contrepoint et de l'harmonie moderne. Ce n'est pas un homme né musicien. Il n'entend rien au choix des timbres, il orchestre comme un pianiste. Et si l'un de nous avait pareille médiocrité comme métier d'orchestre, nous lui dirions « Mon cher ami, vous avez des dispositions, mais retournez bien vite sur les bancs de l'école. » Je comprends qu'on écrive une œuvre pareille dans un moment où le cerveau est vide. Il s'agit du concerto pour violon qui avait été donné à Paris en 1878. Mais je ne comprends pas qu'on livre cette œuvre à la publicité quand on la relit quelques mois après l'avortement. L'invention est mesquine et malgré tous les efforts de l'auteur pour gonfler son baillon et avec tous les procédés du métier, il lui a été impossible de couvrir la pauvreté de l'invention. Constater, c'est un peu rude. Je suppose qu'il y a derrière ce papier quelques réactions au conflit franco-allemand de 1870. Mais ces propos, s'ils sont heureusement uniques dans leur genre, les critiques ont persisté un bon moment. Il n'y a que Ravel qui n'a pas succombé à cette réaction chauviniste assez épidermique et un peu bête, faut dire. Bon, vous l'avez compris, Brahms a mis du temps avant de s'imposer en France. L'Italie révèle bien des charmes, et je le sais, puisque j'en suis originaire. Aussi, c'était une grande joie pour moi d'apprendre que Johannes Brahms a aimé séjourner durant l'été des dernières années de sa vie dans l'Italie ensoleillée, près des lacs de Garde ou à Taormine, en Sicile. C'était d'ailleurs une vraie révélation pour lui. Pourquoi je dis ça? Parce que mes origines italiennes sont très présentes, évidemment, même dans ma manière de parler. Dans ma jeunesse, Brahms ne m'était pas étranger. J'avais même joué quelques œuvres, j'ose dire avec un petit succès tout de même. Les Klavierstücke de l'Opus 118, les sonates avec alto et piano, les sonates pour violon. Enfin, j'avais joué quand même deux, trois choses, faut bien le dire. Mais la musique de Messiaen a pris le pas. Et pendant presque 10-15 ans, le peu de culture que j'avais de la musique de Brahms est resté sur le bas-côté. À 33 ans, on m'invite à jouer le Ré mineur, le concerto, le premier, le Ré mineur de Brahms, donc, à Berlin. Pardon du peu, c'était avec l'orchestre de la Staatskapelle. Et nous avions joué au Schauspielhaus, le grand théâtre de Berlin-Est, où avaient lieu tous les concerts à cette époque, puisque la Philharmonie était en travaux. Alors, comment vous dire ? Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer toutes les questions auxquelles j'ai essayé en tout cas de répondre. Toutes les difficultés que j'ai rencontrées, des problèmes techniques, le sonorité, de style, le piano de Brahms, c'est plein, large, expressif, dense, totalement à l'opposé de la musique de l'instant de Debussy et de celle de Messiaen. Vous voulez un exemple? Écoutons un tout petit peu Yvonne Loriot dans Le réveil des oiseaux. Pour ce concerto, il m'a fallu tremper les mains dans une autre eau, passer par les 51 exercices de Brahms, la seule œuvre pédagogique pour le piano de cet auteur. C'est aussi la dernière qu'il ait mise en forme avant de mourir. Il s'agit en fait d'exercices qui développent un aspect technique sans réelle continuité ni ordre de difficulté. D'ailleurs, Brahms disait qu'il était inutile de les travailler à la file quotidiennement. Mais on pouvait s'arrêter sur quelques-uns pour traiter tel problème, tel autre. Mais cet aspect technique n'est pas le seul. Se posaient également des questions stylistiques et de tempo, d'esprit même de l'œuvre. Un largo à l'allemande n'est pas de la même nature qu'un largo à la française quand il en existe. Et puis, un enregistrement même d'un grand maître, un de nos vieux maîtres, peut-être suggérer des idées, mais n'aide pas. La démarche doit émaner essentiellement de l'interprète lui-même. Donc pour moi, elle devait émaner de mon ressenti, de ma réflexion, certainement pas par un exemple pris de l'extérieur. Donc c'est un conseil que je donne volontiers à mes étudiants, cherchez, trouvez, trompez-vous, faites-vous une opinion et après, renseignez-vous. Pour ma part, quand l'œuvre est apprise, j'aime écouter, comparer, écarter, m'inspirer des idées de certains grands vieux maîtres, Fischer, Backhaus, Arao, Rubinstein, Serkin par exemple. Et puis, il faut rappeler aussi qu'en France, à une certaine époque, on aimait être plus allemand que les Allemands. Une idée circulait, véhiculée par certains cultivés, que, n'est-ce pas, la musique, le poids brahmsien, le gras du son, ils considéraient cela comme une preuve d'intériorité absolue. Alors vous imaginez, moi, d'Italie, je suis vénitien d'origine, j'étais beaucoup trop latin pour nager dans ces profondeurs. Un tempo trop lent et je devenais lourd. Trop vite, j'étais trop léger. Bref, c'était insupportable. Heureusement, je dois dire que Julius Katchen m'a réconcilié. Il m'a réconcilié avec un Brahms moins rhétorique, plus schumannien peut-être. Enfin, en tout cas, celui que je percevais. Thank you. cette musique provoquait une remise en question sans doute exagérée, mais je vous l'assure, bien réelle. Je vous donne un exemple, l'entrée du soliste dans le concerto pour piano et orchestre en ré mineur, l'opus 15. La courbe vocale, très souple, qui est dessinée en tierce et en sixte à la main droite. La nuance piano écrite par Brahms. Eh bien, que voulez-vous, quand on est habitué au piano de Debussy, au piano de Messiaen, le piano de Brahms n'est tout de même pas le même. Et là, cette nuance piano m'incitait à une intimité très exagérée, qui ne résistait pas face à l'orchestre. C'est cette phrase-là, qui est probablement l'une des plus belles que Brahms ait écrite dans ses concertos pour piano, j'ai dû me triturer la main pour essayer de trouver une intensité qui ne cesse de monter jusqu'à un des points très forts culminants de ses premières pages, qui est ce trille totalement à l'aigu, là, et qui est dans une position extrêmement mal commode. Là encore, la technique du piano de Brahms est un peu particulière. Elle implique des écarts. Moi, que voulez-vous des écarts ? J'ai une main qui embrasse la douzième. Je n'ai jamais eu besoin, n'est-ce pas, de travailler les écarts. Mais en ne les travaillant pas, on ne résout pas les problèmes. Et quand arrive ce tri... Quand arrive cette phrase-là, eh bien, on a de bons quarts d'heure à passer au piano. Alors, bon, il y a des gens qui ont des mains, des pianistes de grand nom d'ailleurs, qui ont des mains beaucoup plus petites, qui ont trouvé la commodité, je ne sais pas si vous entendrez la différence, de faire ce tri réparti en octaves alternées aux deux mains. Pourquoi pas ? Enfin, je ne veux pas discuter de ce choix. Je dirais simplement que cela ne me semble pas sonner tel que Brahms l'avait noté. Il l'a noté comme ça parce qu'il voulait l'entendre comme ça. Peut-être que l'effort que cela impliquait apportait une tension. Et cet arrangement, au fond, à deux mains en alterné, est un arrangement qui, pour moi, dérange ce passage-là. On l'écoute, d'ailleurs. Nous écoutons Claudio Arrau avec les Concertgebouw sous la direction de Bernard Haitink. Et puis, il y a ce grand deuxième thème. Ce grand deuxième thème, l'espace, la plénitude de l'expression, tout épanchement que pouvait suggérer la courbe nuisait complètement à la grandeur de ce thème qui sonne presque comme un choral. Mais bon, voilà, encore une fois, je me retrouvais confronté à moi-même. J'avais envie de chanter un peu plus fort, un tout petit peu plus abandonné, et on tombait dans l'opéra italien, ce qui est insupportable, évidemment. Bref, vous l'avez compris, j'étais perdu. Et puis, il y avait les références à Bach, Bach l'intouchable. La jeune génération ne pourra peut-être pas comprendre ce que je vais dire, mais Bach, je me l'interdisais, tout à fait. Pourquoi ? Parce que dans les années 1980, la furie baroque sur instrument ancien s'est imposée. On ne pouvait pas imaginer le concerto pour quatre claviers, pour quatre pianos sur scène. C'est-à-dire que maintenant, c'était terminé. Cette époque-là, Bach, maintenant, était sur les instruments anciens. Bon, aujourd'hui, évidemment, les choses se sont un peu assouplies, mais alors à mon époque, je vous assure que ce n'était pas si simple. Or, le final du concerto pour piano de Brahms, c'est... qui commence comme ça... avec une espèce de continuo de double croche comme ça, c'est un contrepoint qui est incessant. Et un thème avec une grande fierté, une grande énergie. Ce rondo de Brahms, ce final de concerto, sonne de toute façon comme un Bach aux dimensions supérieures, je dirais. On en veut un exemple, peut-être écoutons le final du concerto pour clavier, pour clavecin de Bach, par Wanda Landowska. Alors j'en reviens à Berlin, évidemment. Assailli par le complexe de la tradition, j'ai douté. Et ce concerto en ré mineur à Berlin n'était pas des meilleurs, autant le dire, et j'ai mis du temps à m'en remettre. Bon, c'est comme ça. Au fond, les mauvaises expériences, si on sait les exploiter, nous apportent beaucoup plus encore qu'une expérience réussie. Ça, j'ai pu le constater plus d'une fois dans ma vie. Et surtout, j'ai compris une chose, et ce qui compte avant tout, c'est que, quelle que soit la musique d'ailleurs, il faut affirmer son propos. Aussi vrai ou faux soit-il, c'est aller au bout de soi-même, avec un toupet fantastique, même si c'est pour l'offrir en pâture. J'ai eu heureusement, je dois le dire, quelques expériences plus convaincantes par la suite avec ce concerto en France et en Australie d'ailleurs. Mais enfin, mes questions demeuraient. Elles étaient simples. Comment concilier ma nature latine, faite de chants et couleurs, avec une musique introspective, une montagne sonore aux tonalités plus sombres? Au fond, qu'est-ce que l'intériorité? Imaginez ma torture. Un jour, j'ai compris. Lumière enfin. Il suffit de froncer les sourcils en jouant. Et j'étais enfin devenu un pianiste intérieur. En complétant le tableau par quelques propos faciles dont on usait à l'époque sur la souffrance du créateur, l'idéal, l'inspiration, la fin dans le monde. Si, si, je vous assure, j'ai entendu tout ça. Bref, un moment, j'ai pensé être sauvé. Avec Beethoven, je pensais au coup du destin. Pour Ravel, le cerveau qui enflait. Pour Rachmaninov, la douleur de l'exil. Tchaïkovski, peut-être était-il homosexuel. Terrible épreuve, comme vous pouvez l'imaginer. Je vous en passe et des meilleurs. Alors, quelques années plus tard, quand j'ai commencé dans mon coin, tout seul, la troisième sonate en fa mineur opus 5, la plus accessible des trois sonates de Brahms, les problèmes ont refait surface. Je jouais beaucoup Albéniz à ce moment-là. Imaginez le grand écart entre les couleurs de l'Espagne et celles de l'Allemagne du Nord. Pour cette sonate de Brahms, j'ai trituré ma main. Avec cette notion d'intériorité que je m'étais forgée, il n'était pas question que je sois trop souple. Il fallait être tendu, pour ne pas dire raide, afin de contrer ma nature nonchalante du Vénitien sur sa gondole. Peine perdue. Je me suis fait mal au bras, évidemment. Ce n'était pas le bon chemin. Il fallait au contraire que tout le corps joue de son poids disponible et naturel, avec une main faite de souplesse et de fermeté. Au fond, le reflet de la pensée.
Il venait d'accorder son instrument d'une façon tout à fait inaccoutumée. Il essaya quelques accords, entre lesquels il s'écriait « Encore faux, pas la moindre pureté, toujours un comma trop haut ou trop bas. » Puis, dénouant le ruban bleu qui attachait l'instrument à son épaule, il prit la guitare à deux mains, l'éleva sous son regard et lui tint ce discours. « Dis-moi, petit obstiné, où est l'harmonie? En quel recoin de ton être se tapit la gamme juste? Ou bien prétends-tu t'insurger contre ton maître, soutenir que son oreille a été martelée à mort dans la température égale et constante des instruments à son fixe, que son enharmonique n'est qu'une attrape pour enfant? Tu me railles, je crois, bien que ma barbe soit 100 fois mieux taillée que celle de maître Stefano Pacini, detto il veneziano, lequel a mis en ton âme ce don de l'harmonie qui reste pour moi un impénétrable mystère. Et, ma petite, sache bien ceci. Si tu ne tolères point le dualisme à l'unisson de sol dièse et la bémol, de do dièse et ré bémol, ou de tout autre couple de sons, je lancerai sur toi 9 bons maîtres allemands qui te sermonneront et t'apprivoiseront par des paroles en harmonique. Et tu n'iras pas te jeter dans les bras de ton Stefano Pacini. Tu n'essaieras pas d'avoir le dernier mot comme une commère qui se chamaille. Ou bien es-tu bouffi d'orgueil au point de croire que tous les gentils esprits qui t'habitent n'obéissent qu'aux puissants enchantements des magiciens qui ont quitté la terre depuis longtemps et que, dans les mains d'un freluquet... Sur cette dernière parole, l'homme se tut brusquement, bondit et, comme abîmé en de profondes pensées, regarda dans les eaux du lac. « extrait du Chamour d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.
C'est Annie Fischer dans le premier mouvement de la sonate en fa mineur opus 5 de Brahms. Que dire du scherzo de cette même sonate ? Allegro energico. Ma foi, il me paraissait assez facile à saisir, mais finalement j'ai dû changer plusieurs fois mon fusil d'épaule, parce que, là encore, les allures dansantes, je dirais, chez Brahms, ne sont pas si faciles à établir. Il faut trouver un équilibre entre l'élan, l'autorité, c'est un homme autoritaire évidemment, mais aussi l'exemple. Ce scherzo est à mi-chemin des mouvements valsés, il ne faut pas l'écraser, je dirais, malgré la densité des accords qu'il compose. C'est tout de même une texture extrêmement riche, mais ce scherzo s'apparente déjà à l'esprit viennois, et on sait que Brahms était très admiratif, au fond, on peut dire ça, des valses, et des valses de Johann Strauss, ces valses qui étaient apparues en Autriche en 1815.
Thank you.
Nous étions toujours avec Annie Fischer dans ce scherzo de la sonate opus 5.
Muraro au piano. C'est l'été sur France Musique. Roger Muraro.
Quelques petites notions de rappel, n'est-ce pas ? Brahms est né près de Hambourg, sur les rives du Rhin, proche de la Baltique. J'avoue avoir été surpris par certaines images de sa jeunesse, le représentant avec de beaux cheveux blonds, l'air romantique. En fait, il y a peu de choses qui résistent à cette apparence, car l'homme est bougon, timide, réservé, gêné par sa petite taille, sa voix haut perchée, lui fichait un complexe au point de vouloir en modifier la tessiture par une rééducation chez un orthophoniste. Plus tard, le vieux jour, il ira jusqu'à surjouer et afficher une attitude de virilité un peu grossière. Longue barbe, en bon point, buvant trop de bière, de vin blanc frais, qui lui abîmeront le foie et il en mourra. Je le cite. « J'ai toujours eu le temps qui m'était nécessaire, car je n'ai jamais gaspillé mon temps, ni aux cartes, ni avec les femmes. » Bon, c'est expédié, hein. Brahms préférait de loin les filles de joie. C'était efficace, rapide et ne portait pas à conséquence. Quant au divertissement inutile, hormis partager une bonne chope avec des amis, il n'y avait de place que pour la lecture. C'est vrai, Brahms a beaucoup lu. Son imaginaire se nourrissait de toutes sortes de lectures. Il disait d'ailleurs que pour bien jouer, il fallait lire beaucoup.
Harzreise im Winter. Mais là-bas, qui est-ce ? Son chemin se perd dans les bois. Derrière lui se referment les branchages. L'herbe se redresse. La solitude l'engloutit. Hélas, qui peut guérir la douleur de celui à qui le baume est devenu poison ? De qui a bu la haine des hommes dans la plénitude de l'amour ? D'abord méprisé, à présent contempteur, il méprise en secret le meilleur de soi, en vain égoïsme. S'il est dans ton psautier, père d'amour, un chant que son oreille puisse entendre, réconforte son cœur. Ouvre le regard obnubilé sur les mille sources proches des assoiffés dans le désert.
j'ai voulu rendre hommage à Christa Ludwig par cet extrait de la Rhapsodie pour contralto de Brahms sur le poème « Harzreise im Winter » de Goethe.
France Musique.
L'Allemagne du Nord, aux landes balayées par les vents, se prête volontiers à un imaginaire auquel ont contribué Hölderlin et Helder. Hoffmann, par exemple. Nous sommes à l'apogée du Sturm und Drang, mouvement artistique littéraire qui avait été initié par Herder avec sa compilation des Stimmen der Völker au cours du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas. La toute première œuvre de Brahms, son Scherzo opus, d'ailleurs, pardon, sa toute première œuvre, qui est éditée sous le numéro d'opus 4, est en fait la toute première qu'il ait composée. Il avait 18 ans à peine. Cette première œuvre est totalement habité par l'esprit des contes épiques, par aussi un idéal. Dans ce Scherzo opus 4, Brahms expose déjà l'originalité de ses idées. Le premier thème est constitué de motifs éruptifs, imprévisibles. Les larges phrases du second trio constitue un type d'expression qu'on retrouve partout dans les trios, dans les symphonies, dans les sonates futures, dans les quatuors. Alors, dans ce scherzo est déjà rassemblé un rythme diabolique, une belle virtuosité, des modulations extrêmement modernes, des sautes d'humeur en fait, dont on peut trouver la source déjà dans cette œuvre littéraire, le Chat Mour, en alternance avec Chrysler, cette œuvre de Hoffmann, absolument superbe, que Brahms devait connaître et dont il nous révèle toute la substance, je dirais, déjà dans ce premier scherzo, opus 4. Le jeune Melville Chapoutot était au piano pour ce scherzo opus 4 de Johannes Brahms. Ce scherzo opus 4 avait tout pour séduire l'avant-garde musicale. En Allemagne, Franz Liszt était un prince adulé. Liszt était convaincu de l'originalité de ce jeune compositeur de l'Allemagne du Nord. Et il avait déchiffré devant Brahms ce scherzo opus 4 en saluant les qualités de l'œuvre devant toute sa cour de musiciens en fond. Mais Brahms est resté toute sa vie un indépendant. Il a toujours fui toutes sortes de chapelles. Il n'a sûrement pas évalué la grandeur d'âme de Franz Liszt, qui lui offrait son soutien et lui proposait de rejoindre la nouvelle vague de Weimar, là où s'épanouissait l'école moderne et la musique à programme. Si Brahms a été impressionné par Liszt, le contact établi entre l'Allemand du Nord réservé et le génial virtuose hongrois ne fut pas très chaleureux. L'histoire, ou plutôt la rumeur, puisque rien n'a été solidement prouvé. Donc, cette rumeur raconte que, suite à un long voyage, Brahms se serait endormi à l'écoute de la sonate de Liszt que le pianiste lui avait jouée. Vrai, faux. En tout cas, Brahms admirait Liszt pianiste. Je le cite, Brahms. « Nous sommes quelques-uns à savoir jouer du piano, mais nous ne possédons que quelques doigts de ses deux mains. » Brahms faisant allusion au pianisme de Franz Liszt, bien sûr. Cependant, l'Allemand était en désaccord profond avec le courant artistique moderne défendu par le Hongrois. Et je trouve utile de retraduire un extrait du courrier que Brahms lui écrivit en 1857. Cette lettre est d'une franchise et d'une violence telle que j'en suis encore ahuri, jugé plus tôt.
À quoi cela servirait-il d'attendre plus longtemps pour vous dire franchement ce que je pense ? Mon attitude passive à l'égard de vos œuvres n'a pu que vous le faire savoir, à vous qui avez l'habitude d'être traité avec enthousiasme et qui savez de quelle franchise et de quelle positive amitié je suis capable. Je ne vous cacherai donc pas plus longtemps ce que votre cœur d'homme a le droit d'exiger de moi sans délai. Je ne suis absolument pas touché par votre musique. Elle est contraire à tout ce dont j'ai été nourri depuis l'enfance par le génie de nos grands maîtres. S'il était concevable que j'aie pu être trompé, que je sois dans l'obligation de renoncer à tout ce que j'ai appris à aimer et respecter dans leurs œuvres, à tout ce que je sens être de la musique, vos ouvrages ne me seraient d'aucun secours dans un désert aussi immense et aussi anéantissant.
Cette lettre de Brahms, vous conviendrez, est assez verticale. Moi, je n'ai pas connaissance d'une réaction officielle de Franz Liszt à ce courrier si manifestement goujat, voire insultant. J'imagine volontiers le Hongrois touché au cœur, et le silence étant la seule réponse de sa fierté blessée. Mais une petite phrase en fait allusion et souligne l'élégance et la générosité, une fois encore, de Franz Liszt. Les rapports amicaux entre le violoniste Joachim et Liszt avaient été excellents jusqu'à cette lettre malheureuse dont il semblerait que le violoniste ait été l'un des instigateurs. Brahms avait pris la plume sur les conseils du violoniste. Retrouvant Joachim à l'occasion d'un concert du violoniste, Liszt lui dit « Comme vous n'aimez pas ma musique, cher Joachim, je sens que je dois doublement admirer la vôtre. » Brahms, c'est aussi Vienne qui l'a rapidement adopté. Vienne l'élégante, la capitale de la musique, la rivale de Paris, celle que l'on nommait Paris sur le Danube. Vienne, c'est aussi sa compagne fruitée, les raisins pour son vin blanc frais, une douceur de vivre, la région où Brahms va terminer sa vie. Un climat plus serein que l'on retrouve évoqué dans cet adorable mouvement Allegretto Grazioso de la sonate en fa mineur, opus 120, numéro 1. Écrite pour clarinette et piano, pour alto et piano, c'est l'une des dernières œuvres de musique de chambre de Brahms.
Allez, on refait le petit l'Allegretto Grazioso.
Hein? Cette sonate, opus 120, est composée de quatre mouvements au caractère bien différent. Sombre et tourmenté dans le premier allegro appassionato, méditatif et empli de tristesse pour le second, andante, un poco adagio. Mais les petites guirlandes vocales que s'échangent la clarinette et le piano dans l'allegretto grazioso, avec la souplesse vocale des courbes en sixte, créent une fraîcheur où se mêlent folklore et sans doute un parfum de mélancolie.
Pardon ?
Je vois Roger qui doute.
Non, mais parce que... Continuons. Non, c'est parce que c'est vrai que j'ai énormément de mal à me rassembler. Je me sens très éparpillé. C'est drôle. Non, j'ai du mal à être dans l'instant. Alors, ce qui fait que quand tu te mets à vriller comme ça, c'est insupportable, quoi. On essaie le final ?
Ah, on n'essaie pas, on le fait.
Allez, on le fait. On l'essaye. Hein. On essaye de le faire. Cette sonate se termine par un final jeune, noté vivace, franc, optimiste et brillant. L'introduction au piano sonne comme un appel de cuivre, une fière chevauchée que la clarinette tente d'apaiser avant de reprendre plus loin cet appel joyeux. Parce que je vais retravailler un peu cet après-midi, un tout petit peu à fond, et c'est la dernière chose à faire. Il ne faut jamais retravailler l'après-midi des jours où tu dois faire quelque chose, parce que sinon tu mets à jour un truc, tu dis ce petit détail, et paf, c'est ce petit détail.
Je dois dire que j'aime beaucoup cette œuvre, pour l'élégance de son écriture, sa profondeur, mais dont est absente toute lourdeur.
Bah écoute, tant pis hein, pour ce qui va suivre. Allons-y. Thank you.
Patrick Messina et moi-même venons de jouer deux mouvements de la sonate opus 120 de Brahms.
Muraro au piano. C'est l'été sur France Musique. Roger Muraro.
Alors j'en viens maintenant à mon dernier travail sur les Klavierstücke opus 119, donc de Brahms. Comme je l'avais dit au commencement de cette émission, après quelques expériences plutôt heureuses dans ma jeunesse, je m'étais éloigné de ce répertoire. Aujourd'hui, mes questions ont trouvé quelques réponses, mais la quête demeure. Et avec l'opus 119, cette quête, dans l'expression, dans la force, dans l'intimité, il reste encore à faire. Ça, je ne le cache pas, parce que dans cet opus 119, cette quête est encore plus aventureuse. Cette œuvre, finalement, que je connaissais pas très bien. Elle n'est pas souvent jouée. Je comprends pourquoi, d'ailleurs. Elle est très énigmatique. Ne serait-ce, vous savez, que trouver l'équilibre d'un tempo. Cette première pièce, premier intermezzo, est écrit lento. Brahms s'abandonne, cherche des harmonies tout à fait étranges, extrêmement modernes, finalement, pour son écriture. Il faut trouver une qualité du son pleine, intime, riche, dense et à la fois sans ce sentiment d'apesanteur dans lequel on pourrait s'abandonner. C'est-à-dire que, évidemment, chaque son que l'on produit au piano est la conséquence d'une pensée. Mais quand la pensée est trouble, quelquefois c'est le piano qui nous révèle, quelque part, une forme de vérité. Dans cette pièce-là, chaque doigt a une expression, chaque doigt a un rôle qu'il faut identifier, je dirais. Il y a des contrepoints, des accompagnements, des basses à faire sonner. Tout ça sonne avec une richesse que la texture de Brahms impose. Et je dois dire que l'équilibre entre toutes ces données a été pour moi assez difficile à trouver. Cette intimité faite de densité, cette légèreté qui n'est pas joyeuse, cet héroïsme de la dernière pièce, cette fierté, mais c'est une espèce de fierté juvénile d'un homme qui a quand même 63-64 ans. Donc il y a en arrière-plan tout le vécu de Brahms dans cet opus 119. Donc je vous livre en l'état les quelques avancées acquises depuis l'été dernier sur cette œuvre, l'opus 119, comme disait Brahms, les berceuses de ma douleur. Alors bon, il faut avoir le vécu de Brahms pour réaliser ce que ces paroles peuvent signifier. Brahms se raconte, et indéniablement, on voit, plus qu'on le sent, on voit presque Schumann à ses côtés. Et je joue.
Je viens de jouer les Klaverstück opus 119 spécialement pour cette émission. Et je veux remercier mes amis Lambert Wilson, Melville Chapoutot et enfin Patrick Messina pour leur précieuse participation. La programmation musicale est à retrouver sur le site francemusique.fr. Vous pouvez également réécouter et télécharger cette émission sur l'application Radio France. L'équipe technique était composée de Yvan Charby et Christophe Goudin pour la prise de son. L'attaché de production Xavier Carrère et la réalisation par Max James. Faut-il aussi remercier très chaleureusement la salle Corto, l'école normale de musique, qui nous accueille pour l'enregistrement de toutes ces séquences. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain à la même heure.
À réécouter sur francemusique.fr.